Allô la planète avec Éric Lange sur lemove.fr.
Et nous reprenons l'émission là où nous l'avions laissée. Dans un instant, on ira faire un tour à Hong Kong où nous attend Eric. Je sais qu'il y a Jonathan aussi là-bas pour prendre des nouvelles de ce qui se passe, les manifs, tout ça, à Hong Kong. Adrien et Claire nous attendent à Moscou. Et John aussi, la suite des aventures japonaises. Normalement, il est sur l'île aux chats. Une île où il n'y a que des chats. Mais on retrouve Christophe.
Ça va, Eddy ?
Salut Christophe, ça va bien ?
Très bien, très bien.
Attends, bouge pas, faut que je mette un jingle là, sinon je suis perdu.
Allô, la planète, sur le Move.
Christophe, donc on a laissé il y a 23 heures exactement, il y a quelques minutes pour ceux qui écoutent l'émission sur le canal 24-24 d'Allô, la planète. Christophe, toujours en France, hein, t'as pas bougé depuis hier.
Hélas, non.
Je rappelle les faits rapidement, il y a 11 ans, tu m'as dit ? Non.
Non, il y a 8 ans.
Il y a 8 ans, voilà. Il y a 8 ans, tu faisais un voyage au Laos sur une moto, tu te baladais comme ça, tu es arrivé dans un village où toutes les guest house étaient pleines, il n'y avait pas un endroit où dormir parce qu'il y avait un mariage, je crois, quelque chose comme ça, un mariage dans le coin. Du coup, tu t'es retrouvé chez des gens qui t'ont accueilli et puis ça s'est tellement bien passé que tu es tombé plus ou moins amoureux de ce village. Depuis, tu y retournes régulièrement et tu as monté une association là-bas. On en était resté là.
Voilà, c'est tout à fait ça, je vais résumer.
Donc le village, en fait, il n'a rien de spécial, c'est ce que tu disais, mais c'est la rencontre qui a été forte, hein. C'est une histoire de moments et de personnes.
Oui, alors ce village, il y a des routards qui se rendent sur place parce que ça fait partie de la boucle du plateau des Voloven, et beaucoup de gens le font avec Anne. Il y a des cascades, mais voilà, des cascades quand on se balade en Asie ou un petit peu partout, on en voit, et c'est pas des cascades non plus qui méritent forcément un grand détour. Mais ce sont les gens sur place qui m'ont séduit.
Et qu'est-ce qui t'a poussé donc à monter une association là-bas ?
En fait, depuis longtemps, moi, je voyage un petit peu partout et je me suis souvent posé des questions, comme j'ai mis 10 ans avant d'aller mettre les pieds en Birmanie. Je me suis toujours posé la question de l'impact qu'on avait, nous, voyageurs, sur le pays qu'on découvrait. Ouais. Et j'ai eu envie de rendre ce qu'on me donne, en fait. On te donne des sourires, on te donne du temps, on te donne des échanges. Et j'ai cherché un moyen pour moi de rendre un petit peu ce que je prenais quelque part là-bas.
Ah, c'est marrant, c'est étonnant comme démarche, ce besoin de nouer un autre contact, alors d'aller plus loin.
Oui, oui, c'est pas un safari photo que je fais, même si j'adore la photo. Et c'est qu'en fait, j'y suis retourné à plusieurs reprises. Et puis, on se rend compte que là-bas, il y a des besoins. Et qu'on peut peut-être, avec quelques amis, se retrousser les manches en France et puis répondre à ces besoins. Mmh. Et les besoins fondamentaux qu'il y a un petit peu partout dans les pays d'Asie du Sud-Est, ce sont principalement des besoins axés sur l'éducation. Et moi, j'en ai parlé autour de moi. À l'époque, j'avais un blog. Et j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il y a des amis qui m'ont dit, Christophe, on se bouge et on fait quelque chose pour ce village que tu apprécies tellement.
Et donc, l'association, elle organise quoi ? Tu m'as dit, c'est des cours d'anglais. Hein, vous donnez des cours aux enfants, notamment, parce que vous faites beaucoup de choses, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. C'est notre principale activité pour l'instant, mais on a plein d'autres projets. On donne, comme ce village est un village qui est fréquenté par les touristes, on se dit que si les enfants arrivent à parler un anglais à peu près correct, eh bien, ils auront l'occasion plus tard peut-être de monter leur petit business à eux qui leur permettra de vivre et puis aussi d'échanger et de communiquer avec les touristes. Ouais. Donc, on a aujourd'hui un peu plus de 80 enfants qui sont en cours d'anglais tous les soirs, du lundi au vendredi, 1 heure par soir, sous l'égide de 2 professeurs laotiens qui parlent très très bien l'anglais.
D'accord, mais je vois aussi, tu m'as envoyé un message, vous faites beaucoup de choses, il y a de l'éducation à la gestion des déchets, de la collecte de vêtements, de la mise en place d'une crèche, enfin il y a pas mal d'activités du coup autour.
Nous on n'est pas là pour créer des besoins, on est là pour répondre aux besoins du village, et j'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Pau, et j'en parlais hors antenne tout à l'heure. Pour moi, Pau, c'est l'homme le plus gentil du monde que j'ai rencontré, et c'est un homme qui a réussi dans le village, mais qui dédie tout son temps à aider son village. Et l'idée, nous, c'est de répondre aux besoins et pas d'en créer. Et en fait, ce qu'il nous a demandé, eh bien, c'est de bâtir un avenir meilleur pour les enfants du village. Donc l'anglais, évidemment, mais aussi la préservation de l'environnement, parce que là-bas, c'est comme dans beaucoup d'endroits de l'Asie du Sud-Est, hein, tous les auditeurs le savent, qui ont traîné leur sac à dos dans le coin, c'est qu'on balance tout à la rivière, et puis on se nourrit pourtant des poissons dans la rivière. Et donc c'est pas uniquement savoir parler anglais, c'est aussi faire attention à l'environnement, pas pour nous, pas l'idée d'avoir un endroit plus propre quand on y vient, mais simplement pour eux.
Et donc, tu cherches des moyens pour développer cette association? Il te faut des sous, il te faut des volontaires, il faut des gens pour t'aider là-bas et ici, enfin je veux dire là-bas au Laos et en France.
Ouais, mais le move pour ça et Allo la planète, c'est juste excellent parce que la toute petite intervention d'hier, ça a permis d'avoir déjà deux contacts de personnes qui se proposent pour faire du bénévolat dans ce village, pour donner des cours d'anglais notamment, mais on a plein de choses. Notre souci aujourd'hui, c'est qu'on est une toute petite association, on est tout jeune, on a un an d'existence, même si ça fait déjà deux ans qu'on mène notre combat là-bas. Il nous manque un webmaster, il nous manque des gens qui puissent nous aider en com, des gens qui ont envie tout simplement à la maison de se dire tiens, on a regardé le site, on a écouté Allo la planète, cette association elle nous touche, on a envie de faire quelque chose. Eh bien organisez ce soir, ce week-end, demain quand vous voulez, un apéro solidaire entre les copains, vous dites voilà, bah, vous venez, chacun pose 2 euros par exemple sur la table, on boit un coup tous ensemble et puis on reverse cet argent à l'association.
D'accord. Écoute, ça a l'air tellement simple. Mais c'est vrai, en plus, 2 euros, c'est beaucoup là-bas. Ouais, c'est vrai.
On aide notamment, tu vois, on fournit des uniformes pour les gamins. Parce que là-bas, l'école est obligatoire, mais ça reste un grand mot. Parce que dans les villages, vont à l'école les enfants qui ont bien envie d'y aller. Ce ne sont pas les parents qui vont les pousser à aller à l'école, et encore moins les professeurs. Mais on a rencontré, moi j'y étais là, il y a encore 15 jours, une famille qui m'a dit « moi j'aimerais bien envoyer mes enfants à l'école ». Mais j'ai pas de quoi leur payer un uniforme. Et j'ai pas envie qu'on sache que mes enfants, ils sont pauvres. Même si dans tout le village le sait, mais ils ont pas envie de le montrer. Un uniforme, 7,50 €. Ça veut dire qu'avec une adhésion, nous, notre adhésion, elle est 10 euros par an. Avec une adhésion, eh ben, tu permets à un enfant d'aller à l'école pendant une année. Pour lui payer son uniforme, son cartable, ses cahiers, ses trousses, ses crayons de couleur et tout ce qui va avec.
Un paquet de cigarettes. Donc, le prix d'un paquet de clopes, monsieur, dame.
Ouais, ben voilà. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui on est 120 membres, évidemment on aspire à grandir, à avoir plus de membres, mais il peut aussi y avoir des gens qui nous disent, parce qu'on sait qu'en France c'est pas facile pour tout le monde, ben moi j'ai pas un rond à filer à l'association, par contre j'ai du temps. Alors nous on est basé en Vendée, mais on a aussi des membres qui sont au Québec, on a des membres qui sont en Nouvelle-Zélande, on a des membres qui sont en Alsace, à Paris, et ça peut être chacun dans son coin qui prend contact avec nous et qui souhaite organiser quelque chose pour collecter des fonds ou simplement nous faire connaître, partager la page Facebook. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et c'est pas pour ça, bah, il dit bonjour, c'est pour les enfants là-bas.
D'accord, Christophe. Bah, écoute, y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est allez-y. Voilà, on met un lien comme on a fait hier avec la page Facebook de ton association, le site. Et puis n'hésitez pas. Voilà, 1, 2, 3 euros, 5 euros, c'est pas grand-chose. 10 euros, comme il dit, le prix d'un paquet de cigarettes, tu permets à un gamin d'aller à l'école. Et un peu de temps. Ok. Bah, écoute, ça marche, Christophe. Voilà. Le message passe. Tiens-nous au courant, surtout. Oui, bien sûr.
Ouais. Notre association, elle est basée à Banfenvang, Tadlo, c'est sur le plateau des Wolofen. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le sud du Laos. Donc si des fois, entre la frontière thaïlandaise et la frontière cambodgienne, donc si des fois vous êtes là en France ou vous écoutez ailleurs n'importe où dans le monde et vous avez prévu d'aller dans le sud de la France, surtout n'hésitez pas à travers notre page Facebook à nous contacter, on peut vous mettre en lien avec les gens du village et vous allez aider, mais en plus vous allez vivre. On a aujourd'hui deux jeunes femmes françaises qui sont bénévoles là-bas et qui travaillent sur la gestion des déchets. Elles m'ont envoyé un message ce matin en disant « mais c'est super parce que évidemment ils aident les gamins, mais ils ont une expérience formidable que de passer du temps dans un village avec les gens là-bas accueillis sur place. Les gens leur donnent des cours de cuisine, les invitent à l'apéro chez eux. Enfin, voilà, c'est pas juste. On donne de son temps, c'est qu'on reçoit aussi beaucoup.
C'est marrant, en t'écoutant, j'ai l'impression d'être au début de quelque chose d'incroyable. Tu sais, un village qui reçoit des gens du monde entier qui viennent voir, donner un coup de main. Enfin, c'est assez étonnant ton histoire. Bon, bah allons-y. Alors, tiens, il faudra qu'on appelle alors les deux Françaises qui sont là-bas, un de ces quatre, qui sont sur place.
Ah, pas de soucis, hein, je peux vous mettre en relation avec.
Bah, ça marche, tu vois ça avec Anka et puis on va les appeler dans les jours qui viennent, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Christophe, surtout n'hésite pas à nous tenir au courant, envoyer un petit message de temps en temps et on se fera le relais, ça roule.
Bah, comme on dit là-bas, merci, comme ça et d'alaï.
Je t'en prie, salut Christophe, à bientôt, bravo.
Salut, à bientôt, ciao.
Le retour de John. John ?
Oui, ça va, tu m'entends correctement ?
Mais je t'entends très bien, mon cher John. Est-ce que tu es dans ton île au chat ?
Oui, je suis allé cet après-midi. Je suis allé à l'île au chat.
Alors, il y a vraiment une île avec des milliers de chats au Japon ?
Il y a eu un tsunami sur la région, donc il y a beaucoup moins de chats.
Ouais.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que je suis sûr et certain qu'il y a une épidémie de coryza parmi les chats. Donc la plupart des chatons ne risquent pas de survivre et les adultes sont plutôt pas en grande forme. Mais sinon, si on met ça de côté, oui, il y a plein de chats qui partout.
Mais pourquoi, c'est quoi l'histoire de cette île? Pourquoi il y a des chats spécialement à cet endroit du Japon?
Là, je pense que c'est lié aux habitants, ils adorent les chats et du coup ils les nourrissent et puis il n'y a aucun contrôle sur les naissances. Du coup il y a un volume important de chats qui se crée, quoi.
C'est bizarre comme histoire. C'est marrant parce que l'autre jour on était avec une jeune fille en Australie où elle disait là-bas en Australie les chats sont des nuisibles, si tu rapportes une queue de chat aux autorités tu gagnes 10 dollars. C'est vrai, oui. Alors j'allais te dire, bon, fais un peu de fric, prends des queues de chat à l'île aux chats et va en Australie, mais non.
Là, c'est l'inverse. Bah, les queues de chat, ils en ont plus, enfin, pour divers, parce que c'est un peu des chats, voilà, de gouttière. Hein. Mais
pourquoi ça me fait rire? Pourquoi ça me fait rire cette histoire? Je sais pas.
Il les adore, quoi.
D'accord. Bon, tout va bien, John. Alors, hier, tu nous as bien raconté la Corée du Nord, tout ça. Et du coup, on n'a pas pu parler des quelques expériences que tu as eues au Japon. D'abord, je commence par le fugu. Tu as joué à la roulette russe?
C'est un peu ça. Bon, après, je suis pas fou. Dans l'apparence, ça ressemble à de la roulette russe. Dans les faits, ça l'est pas trop parce qu'il passe quand même des années de diplôme. Après, il est vrai qu'il y a un accident et un mort par an. Ouais. C'est une petite roulette russe japonaise, mais ça fait partie du petit piment du plat.
Si on rappelle le truc, hein, parce que tout le monde n'est pas au courant, le fugu, c'est un poisson qui a, si je me souviens bien, une glande quelque part dans son corps. Si on perce la glande, on... Vas-y, raconte.
Elle a une glande en fait qu'il faut bien enlever, bien préparé, si le chef le prépare mal, si tu vas dans un mauvais restaurant, en quelques secondes, c'est l'effet très, très rapide, hein, tu survis pas, t'es paralysé et
tu meurs.
Et tu meurs, quoi, voilà. Dans le meilleur des cas.
Si le cuistot il perce la glande, le liquide se répand tout de suite dans le poisson, puis
c'est
toi,
ça,
tu meurs. Voilà.
Ça, ou alors si tu es trop fatigué, il y a trop de monde, tu changes de resto.
D'où le côté roulette russe et d'où le petit piquant, quand tu le manges quand même, quand tu mets la première bouchée dans la bouche, tu dois quand même avoir une petite poussée d'adrénaline.
Oui, le poisson en lui-même il est bon, mais c'est pas, voilà, ça vaut pas certains autres poissons comme du filet de cendre ou autre. C'est bon, mais ça a pas une grande saveur nutritive. Le piment, c'est surtout le fait qu'il contienne une neurotoxine. Non, c'est pas une neurotoxine. Bon, bref, on s'en fiche. Ouais. Qui peut te tuer.
Ça se trouve, tout ça n'est pas vrai. C'est juste pour vendre un poisson. Tu sais, t'inventes une légende comme ça et tout le monde mange ce poisson pour vivre une expérience. En fait, il n'y a pas du tout y a rien.
J'ai déjà vu un docteur, justement, en fait, la personne avait pris une dose pas assez importante, donc elle n'en est pas morte et elle s'est retrouvée bloquée sur le sol, paralysée, consciente de tout ce qui lui arrive, voyant tout le monde, mais ne pouvant pas réagir, pas parler. C'est un coup à se faire autopsier vivant, ça.
Oh, l'horreur totale, c'est épouvantable. Donc t'as survécu au fugu, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? T'es allé dans un bar bizarre où les jeunes filles se déguisent en petites filles.
Alors, il faut m'expliquer que la dernière fois tu m'avais lancé un défi de manger une grenouille vivante.
Oui.
Après, j'ai dit non parce que j'ai assimilé ça de la cruauté gratuite sur les animaux, donc je me suis dit non.
Cruauté gratuite sur les animaux.
Oui, tu manges une grenouille qui est vivante et quand tu la mâches, elle est encore vivante.
Non mais ça me fait rire. Non mais il faut voir la vidéo. T'as vu la vidéo ou pas? C'est assez étonnant.
Oui, justement, c'est pour ça que j'ai changé d'avis et du coup, Aneka m'a proposé d'aller dans un bar à câlins. Alors quand on m'a demandé ça, que j'ai renseigné, ça ressemblait un peu de la prostitution. Alors entre le premier, entre cruauté sur les animaux et prostitution, j'ai trouvé ça assez énorme. Donc j'y suis quand même allé, le temps de la photo. Je vous ai mis sur la photo un gros pédobir pour la mention qui va bien avec la photo et le défi que vous m'avez lancé.
Mais moi j'ai rien fait, attends, c'est Anka qui t'envoie dans des bars péripatatées, filles, putes. Ça va pas Anka d'envoyer les auditeurs comme ça dans des endroits de débauche? Mais alors c'est quoi ce bar? Je connaissais même pas, quoi. C'est un bar à câlins, c'est quoi? C'est un bordel?
Non, c'est pas un bordel, normalement t'es pas censé avoir de sexe et il y en a pas. Et moi en tout cas j'ai pas demandé et je me suis vite cassé. C'est juste qu'en fait tu paies pour dormir avec une fille, donc tu t'allonges et tu dors. Sachant que là-bas, c'est un peu glauque, puisque ça ressemble plus à de la pédophilie à mon goût qu'autre chose. Quoi.
Pourquoi, c'est des gamines?
Oui, c'est ça, clairement. Il faut savoir que dans Akiba, donc, qui est le quartier manga de Tokyo, Tokyo, tu rentres dans un magasin de manga et tu te trompes de rayon et t'atterris dans comment ça s'appelle, dans un rayon pour adultes, ouais. Où tu as clairement des visages d'enfants. Et pour être encore plus explicite, dans Akiba, donc Akihabara de son nom complet, tu as un sex shop de 5 étages et au 2e étage, si je dis pas de bêtises, tu as des poupées à l'image de petites filles dans lesquelles tu dois insérer des vagins artificiels. Donc oui, le Japon est what the fuck, clairement.
Waouh, c'est sévère ce que tu viens de raconter. Hein, ouais.
Ah oui, non mais oui, c'est, il y a du gros fantasme. Mais moi, j'ai atterri sur un étage où par exemple, je m'attendais pas à ça. À la base, je voulais juste voir du manga. J'ai atterri sur l'image d'une fille qui est en train de faire ses besoins sur la face d'un gars. Et apparemment, toutes les discussions que j'ai eues, oui, il y a beaucoup de fantasmes pervers au Japon.
Tiens, fais pas cette tête-là, c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Alors ça suffit. Prends, ce soir, si, c'est toi. Elbim ou non, c'est pas moi, j'étais pas là. D'accord, le côté du Japon dont on n'avait pas encore parlé dans l'émission et qui existe. Qu'est-ce qui va t'arriver maintenant, mon cher John? C'est quoi les défis à faire, tout ça?
C'est pas vraiment un défi, c'est un défi, mais sans en être un, c'est que j'ai un ami du coup qui se marie en Indonésie. Donc chose n'est pas coutume, je vais devoir prendre un avion. Mmh. Mais comme je veux pas faire les choses comme tout le monde, et j'embarque sur Malaysia Airlines.
Pardon, c'est pas drôle non plus. Donc non, mais vous avez des vies quand même. Tiens, j'ai un pote qui se marie en Malaisie. Je descends en Malaisie, je vais aller voir. En Indonésie, tu m'as dit. Ouais, d'accord. Bon, tu nous rappelles de là-bas. Et si vous voulez envoyer des défis. Pardon.
Le bar que tu me parlais vite fait, c'est un bar au fait où les jeunes filles s'habillent en souvrette et te servent à genoux en t'appelant maître. Ce qui te donne un peu l'état d'esprit du quartier complètement taré du Japon, qui est le quartier de Akiba.
T'as une fille qui se met à genoux qui t'appelle maître, mais c'est ce truc de fou. Ils sont fous. D'accord, John, merci, bonne route. Et si merci. Vous voulez envoyer des défis à John ou le provoquer un petit peu, on va mettre un lien avec ton site, ta page Facebook, tout ça, sur notre page à nous et sur lemove.fr. Merci, John, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
À la prochaine, salut. Dans un instant, qui sera là, vous m'avez dit, c'est Céline au Canada qui s'est réveillée rien que pour nous, Céline.
Oui, allô.
C'est vrai que tu t'es réveillée rien que pour nous, c'est gentil ça.
Je te suis avec plaisir.
Il est quelle heure?
Il est un peu plus de 4 heures du matin.
Ouf. Bon, un petit café et puis on arrive. Je te laisse le temps d'un petit kawa, bon, d'accord? Ça marche.
Ok, à tout de suite.
Voici The Rex sur lemove.fr et dans Allo la planète. You are not an open book. I can't do nothing about that. But I'm worried. I'm overdrawn. What am I doing up? Put the witching up. Down a book, turn on the TV. It's 2 a.m., there's nothing on. I just need something to focus on. Things are going to slide out of control. I hope that you come back. When I close my eyes, the thought of you denies me the rest and repair that I need. The longer you are far from me, the more I drift away. I didn't see the warning signs, I was falling through the cracks. Oh, 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 oh.
Allô la planète, écoutez le monde quand il n'a plus de frontières. Eh ben, franchement, ça sonne mieux.
La dernière fois qu'on a eu Céline au téléphone, elle était au chômage à Hong Kong. Enfin, elle était au chômage en France et du coup, elle en avait profité pour aller à Hong Kong. C'est ça, Céline, c'était quand ? C'était au printemps dernier, ça ?
Ouais, c'est ça, c'était en avril. J'étais allée voir une amie à Hong Kong qui vous êtes en contact aussi. Et puis, voilà, le temps de préparer... En fait, j'avais eu quelques mois de chômage avant le temps de préparer un peu l'arrivée au Canada. Et puis... Le grand départ. Et puis, voilà, maintenant, ça y est, on est au Canada depuis un peu plus de 3 mois.
À propos de Hong Kong, t'as vu ce qui se passe là-bas ? Il y a des manifs, ça risque de chauffer là, dans la soirée.
Ouais. On va appeler... J'ai vu ça. J'étais un petit peu inquiète parce que bon, quand on est loin, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'infos ou qu'on ne regarde pas forcément beaucoup d'infos, on ne se tient pas trop au courant, j'étais... Ouais, je l'ai vite contacté, là, ma copine.
Mélissa, ouais, c'est ça. Bon,
Ouais, Mélissa, ouais, c'est ça.
Elle est toujours là-bas ?
Ouais, elle est toujours là-bas.
Bon,
il faudra... Elle est toujours là-bas, bon, c'est assez inquiétant, mais bon, ça a l'air quand même... Ça a l'air quand même d'aller, c'est juste que, avec les Chinois, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, quoi.
On aura Eric tout à l'heure qui est là-bas, et tiens, il faudra qu'on rappelle Mélissa aussi dans la semaine. Bon, alors revenons à toi, Céline. Le PVT, ça y est, tu l'as en poche ?
Oui, ça y est, on l'a depuis quelques mois en poche, et puis du coup, une fois qu'on l'a eu, il a fallu vite s'organiser, parce qu'on ne voulait pas trop attendre, on était un peu pressés. On avait vraiment hâte de partir, donc on a fait tout ce qu'il fallait, on a lâché l'appart, tout ça, et puis on a fait ce qu'il fallait pour nos boulots, et puis maintenant, comme je disais, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est là, qu'on a surtout voyagé jusque-là, et puis là, on vient de se poser un petit peu plus pour renflouer les caisses.
Vous êtes où, là ? Vous êtes à Québec, à Montréal, ou non ?
Ah non, pas du tout, de l'autre côté, en Colombie-Britannique.
Ah ouais ?
En fait, on a acheté un van à Montréal et puis on a traversé... Alors, à l'origine, la destination, c'était Vancouver. Et puis, finalement, ça a un petit peu changé. On compte toujours y aller à un moment donné. Mais finalement, on est allé jusqu'au Yukon. Donc, on a traversé tout le Canada. Et là, on vient de se poser après un peu plus de 14 000 kilomètres. Et voilà. Donc, on est monté d'abord jusqu'au Yukon. Et puis là, on est redescendu plus au sud de la Colombie-Britannique.
Comment s'appelle la ville où vous êtes ?
Ça s'appelle Vernon.
D'accord.
Donc, dans la vallée de l'Okanagan.
La balade à travers le Canada, comme ça, en van, c'est beau. C'est une belle balade, ouais.
Ah ouais, vraiment. Ouais. On peut pas dire que... Ouais. Vraiment, les moments forts, ça a été... Bon, nous, on avait déjà fait un petit peu le Québec, et là, c'est vrai qu'on l'a pas tellement fait, du coup. Mais le lac Supérieur en Ontario, c'était quand même génial. On a fait, on s'est essentiellement concentré sur les parcs nationaux, en général. Mais donc le lac Supérieur, on a beaucoup aimé. Après, en fait, on s'est arrêté presque un mois en Saskatchewan. Donc, dans le centre du pays, on a fait sur le principe de Alpex, là, qui est donc un peu comme du woofing. C'est comme du woofing, mais appliqué à n'importe quelle chose.
Ouais, c'est que t'arrives chez des gens qui sont inscrits sur le réseau Alpex et quand tu te retrouves à bosser pour eux, à faire des trucs dans les jardins, dans les maisons, enfin un peu tout et n'importe quoi, en échange du gîte et du couvert. Il paraît que ça marche bien d'ailleurs, ce réseau Alpex.
Ça marche très bien et c'est vraiment génial. Nous, on en est à notre deuxième, là, mais donc on s'est arrêté presque un mois en Saskatchewan pour faire un volontariat dans un ranch, en fait. Un ranch qui faisait aussi bed and breakfast. Et donc, ça a été vraiment génial.
Et alors là où vous êtes, il y a du travail. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors il y a pas mal de travail parce que il y a beaucoup de vignobles aux alentours et comme moi je travaillais dans le vin en France, du coup je me suis dit que ça pourrait être un endroit sympa pour moi pour trouver du travail, ne serait-ce que pour l'instant au moins pour les vendanges et puis après peut-être avec un boulot plus fixe.
D'accord.
Et puis sinon, il y a beaucoup, c'est une région, comme c'est très tempéré quand même par rapport au reste du Canada, il y a pas mal de plantations avec des arbres fruitiers, etc. Donc là, en ce moment, c'est la saison des pommes, par exemple. Donc il y a pas mal de picking pour les pommes et différents fruits comme ça.
On trouve facilement.
Donc, voilà, les vendanges, et
puis, on trouve facilement dans votre cas, là, quand on se balade comme ça au Canada. Ouais, ça...
Je pense, oui. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester toujours à l'affût. Là, nous, par exemple, on est là depuis. On est dans le coin depuis dimanche, puisqu'on arrive des Rocheuses. On a terminé notre balade, en fait, dimanche. Et puis voilà, donc on est arrivé ici. Et puis là, donc ça fait quelques jours qu'on est dans une famille à nouveau en LPEX. Et puis là, hier soir, on est allé voir une amie avec qui justement on avait fait une japonaise avec qui on était au ranch dans la Saskatchewan. Et elle est chez des gens elle-même qui avec qui on a discuté un bon moment. Ils ont eux-mêmes une entreprise. Ils ont proposé un travail en discutant comme ça à mon copain.
Ah ben voilà.
Puis, là, mais tu travaillais dans le vin, là, mais moi je connais un thème. Enfin bon, voilà, c'est souvent des choses comme ça, quoi. En fait,
la vie paraît.
Souvent à ouvrir sa bouche. Et...
C'est marrant à vous écouter tous comme ça. La vie paraît plus simple quand on est sur la route. Ou alors c'est parce qu'on est dans une attitude, dans une énergie différente. Je sais pas.
Ouais, je pense que c'est un peu ça aussi. Et puis, ouais, voilà, moi c'est vraiment ça. C'est que maintenant j'ose, comme je disais, ouvrir un peu plus ma bouche, quoi. Dire oui, ben voilà, on fait ça. Alors, en ce moment, on va chercher du travail. Elle m'a dit, oh, mais quel genre de travail? Donc, je lui ai expliqué que voilà, on faisait ça, mais que bon, après, on était ouvert un peu à tout. Ah, mais il y a ça. Si vous voulez, je connais un tel. Et puis voilà, souvent, c'est vrai que oui, finalement, on se dit, mais finalement, c'est tellement simple.
Mais oui, c'est ici que c'est compliqué. C'est quand tu bouges plus que ça devient compliqué, finalement.
Ouais, peut-être.
On va tous se mettre dans dans des camping-cars. Marc, il faut qu'il y en ait qui restent aussi pour nous accueillir. Hein.
Ouais, c'est ça.
Vous vivez au jour le jour, là? Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de projet à long terme? Vous dites, on va faire ci, on va faire ça? Non, c'est...
Non, pas spécialement à long terme. On a des idées, comme je disais, moi, comme je travaillais dans le vin en France, c'est vrai qu'ici, je me suis dit que c'était quand même un bon endroit si je voulais continuer à travailler dans le vin, mais... non, on n'a pas spécialement de projet à long terme. Le projet, c'était surtout le voyage. Et puis après, de se poser, de trouver un boulot dès qu'on en aurait besoin, quoi. Mais non, il n'y a pas spécialement de projet, si ce n'est profiter au maximum du Canada.
Et de la vie, les nouveaux nomades. On avance, on trouve du boulot et puis on avance. C'est bien.
Ah, ouais, bah, c'est ça.
Bon, bah, profitez-en bien. Tu peux te rendormir. Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé, Céline. À la prochaine. Donne des nouvelles de temps en temps. Merci.
Allez, bonne journée.
Bye. Il y en a deux autres qui sont libres comme l'air. Là, c'est Adrien et Claire. Bonjour, Claire. Bienvenue.
Oui, coucou. Merci.
Ça va, la liberté, la vie, l'amour, tout ça?
Ah, ben ouais, ça va. Ça va très bien.
Ils sont tous heureux dans cette émission. Je vais finir par être énervé, moi. Vous êtes arrivé à Moscou?
Alors, on est à Moscou. La dernière fois qu'on s'est eu, je crois qu'on était en Islande.
Oui, c'est vous les bizarres qui... Alors, ils font le tour du monde et ils avaient commencé leur tour du monde en Écosse et en Islande. Mais c'est bizarre, les gens, ils vont...
D'habitude,
on va directement à l'Est ou à l'Ouest.
C'est comme ça.
Vous êtes où, là? Vous êtes où? Il y a du bruit?
On est en Russie, donc.
C'est comment autour de vous, là? Vous êtes où? Il y a du bruit bizarre. C'est quoi?
Ouais, on est dans une gare, en fait. Dans une heure et demie, on reprend le train. Pour 25 heures, pour commencer notre traversée de la Russie en transsibérien.
Ah, vous prenez le transsibérien et vous le faites par étapes comme ça, c'est chouette ça. D'accord. La première étape, ça va aller où? Ça vous emmène où?
C'est Yekaterinbourg.
D'accord. Les connaisseurs connaîtront.
C'est
à l'est.
1500 km, ouais.
Tout droit à l'est. Tout droit à l'est et puis tu voilà. Ouais. C'est marrant, je suis retourné sur votre blog, vous, à tous les deux. Il y a un petit parfum de fuite dans votre voyage. On veut casser les routines de la vie quotidienne, on veut lâcher les contraintes.
C'est tout à fait ça. En fait, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment de fil conducteur. Enfin, on n'a pas de but caritatif ou vraiment défini, parce que c'est un nouveau mode de vie. Donc, on veut essayer de voyager avec le moins de contraintes possible.
Mais ça vous a pris comme ça un beau matin? Vous vous êtes dit, bon, allez, il y en a marre, il faut faire quelque chose, il faut bouger.
Mais c'est tout à fait ça,
c'est
en fait.
C'est ça, ouais. Et vous aviez un travail, une maison, une vie, un chat et...
Alors, on n'avait pas de chat, mais on avait un appart, oui. Et un travail, moi j'avais un travail, mais c'était mon job étudiant que je continuais parce que je ne trouvais pas dans ma voie.
Ouais.
Et Adrien, il avait des CDD de vendeur, donc bon...
Rien d'excitant, quoi.
Non, voilà. En fait, on ne pouvait pas non plus construire une famille avec les moyens financiers qu'on avait à ce moment-là. Hum. Parce que déjà, bon, on habitait sur la Côte d'Azur aussi, donc forcément, les loyers et tout ça, c'est cher. La vie coûte cher. Moi, j'aurais bien aimé commencer à avoir des enfants, mais c'était impossible parce qu'on n'aurait pas pu assumer. Donc, on a dit, bon, ben, fuck, il y en a marre. On n'a rien de mieux à faire que de partir et essayer de vivre autrement et mieux, quoi, de se faire plaisir, vraiment. C'est maintenant ou jamais.
D'accord. Et donc, vous voilà parti pour une durée indéterminée ?
Oui, c'est ça.
Vous êtes en CDI, quoi.
C'est ça. En VDI, voyage à durée indéterminée.
En VDI sur la route. Tiens, on va inventer ça comme mot, c'est marrant. Ouais. Et ouais. Non, mais c'est bien. C'est pas, alors, c'est pas vraiment une fuite, c'est une grande promenade, quoi. C'est...
Bah, ouais, ça peut être vu comme une fuite aussi, mais c'est... Ouais, je sais pas comment dire.
C'est genre, vas-y, on plaque tout, on va faire un tour. Bon, un grand tour, certes, mais voilà, c'est ça.
Salut Adrien, bienvenue.
Salut, tiens. Merci, je vous écoute, je suis à côté.
Ouais. Non, mais tiens, tu tombes bien Adrien, je crois que c'est toi qui as écrit le papier. Je voudrais revenir un poil en arrière sur votre voyage. J'ai été voir votre blog, et c'est rigolo, je crois que c'est toi qui as écrit sur Amsterdam.
Ah non, c'est moi.
C'est clair, toi, c'est clair, la déception d'Amsterdam. Non mais c'est vrai parce que Amsterdam quand on est gamin la réputation waouh il y a des filles dans les vitrines et les gens ils fument des pétards partout waouh super je vais y aller et puis comme tu dis t'arrives là-bas bon bah les filles dans les vitrines c'est glauque et la marijuana c'est juste un business comme un autre quoi.
Ah mais grave ouais même plus qu'un business enfin c'est omniprésent c'est étouffant enfin nous on a trouvé ça étouffant.
C'est trop quoi il y en a partout tout le temps.
Ouais
et puis les filles bon bah les pauvres quoi dans leur bocal là.
Ah mais trop, franchement j'ai été déçue et choquée parce que je pensais vraiment que ça serait pas limite le paradis des prostituées mais un peu dans cette idée là quoi, quelque chose de fait de bien mais en fait non.
Ah bah c'est terrifiant, hein. c'est épouvantable ces filles dans leur miroir.
Est-ce que tu as vu qu'il y avait un article bonus caché dans cet article là?
Ah non, j'ai pas bien fouillé.
Ah il faut fouiller, il faut cliquer sur une photo qui mène sur un autre article.
Ah bon, il y a quoi dans l'autre article?
Bah, c'est une série que j'essaye de faire. C'est la série Une autre vision du monde. Donc, ça reprend le slogan entre guillemets de notre blog. Et c'est en fait, j'en avais déjà fait un auparavant qui n'avait rien à voir. En fait, c'est quand je le sens, parce que c'est pareil, c'est pas prémédité non plus, mais quand je le sens et que il y a une situation ou une personne qui me touche particulièrement ou quoi, j'essaye de me mettre à sa place et de raconter. La vision du monde à travers ces yeux-là. Et voilà. D'accord. Donc, c'est le deuxième épisode. J'en avais fait un quand on était en Écosse, quand on avait travaillé dans le woofing. Et là, Amsterdam, ça m'avait un peu inspiré, vu que ça m'a touché. Voilà, je laisse le suspense pour savoir quelle autre vision du monde.
On est obligé. On va mettre le lien avec votre blog. Et donc, vous allez sur l'article sur Amsterdam. Là, vous cliquez quelque part. Et il y a un bonus caché. Il y a
même des images, voilà.
Un bonus caché derrière. D'accord, ben, on va aller voir ça. Très bien. Okay. Juste en deux mots, Moscou, votre impression là, avant de partir? C'est impressionnant.
Alors, c'est super joli, mais on va être moins emballé que ce qu'on aurait dû être, je pense, parce qu'on a été malade la moitié du temps. Ça fait qu'on est resté couché.
Ah, vous avez été malade?
On n'a pas. Ouais, une grosse crève. On était complètement morts, quoi. Donc on n'a pas profité autant qu'on aurait aimé, mais sinon oui, c'est à voir. Il y a des monuments aux couleurs incroyables, la place rouge, ça fait rêver quoi. Hier on a eu heureusement du soleil, c'est le seul jour où on a eu du soleil et on était un peu plus en forme, donc on a pu balader un peu partout, c'était vraiment super chouette.
Bon bah tous les deux, bonne route, bonne promenade autour du monde. Et passez-nous un coup de fil là quand vous serez arrivé je ne sais où, plus loin à l'est. Envoyez des nouvelles.
Ouais.
Ça roule.
Ok, ça marche.
Merci, merci Claire et Adrien. Merci à tous les deux. Bonne route.
Merci à vous.
Ciao,
merci,
à bientôt.
Bonne journée.
Ciao.
Ciao, au revoir.
Dans un instant, donc, c'est Eric qui est là. Eric Le Bihan, qui est l'auteur du guide des éditions Nomades Hong Kong, l'essentiel. On l'avait eu il y a quelques temps. Du coup, on s'est dit, on va le rappeler, voir ce qui se passe à Hong Kong. T'es là, Eric?
Ouais, je suis là.
Ok, bah écoute, merci. Bouge pas. On arrive dans un instant, juste après Breakboot. À tout de suite. On essaiera aussi d'avoir Jonathan, peut-être lundi, pour Hong Kong. Sans suite, qui sera là? Il y a Thomas qui veut battre le record du monde de distance en sidecar. C'est bien, mon gars, passe devant, on arrive. Voici Breakbot sur lemove.fr et dans Allô la planète.
my home and your nation to enter your station where the people can feel as one. Sometimes I wish that it was only a dream, but I am just a machine. Ain't only you have a potion that can give back emotion to the meaningless thing I've become. So go on the end now, can make one out of two after all that we've been through. You keep on giving me a reason to see life through your eyes. You can make one out of two after all that we've been through. You keep on giving me a reason to see life through your eyes. To see life through your eyes.
Créa l'homme à son image et Allô la planète sur le net.
Eric est à Hong Kong, il travaille dans la... Tu travailles dans la finance, hein, Eric, si je me souviens bien.
Ouais, je suis travaillé dans la construction, mais je suis directeur financier, ouais.
Voilà, dans la construction, expatrié à Hong Kong depuis quelques années déjà, si je ne m'abuse.
Depuis 4 ans, ouais.
Depuis 4 ans. On t'avait rencontré parce que tu as écrit pour les éditions Nomade le guide sur Hong Kong, Hong Kong l'essentiel.
Ouais, c'est vrai.
Et alors, là, tout de suite, il est quelle heure à Hong Kong, là, c'est le soir?
Écoute, il est 19h38 à la montre. Donc c'est le soir, ouais.
D'accord. Est-ce que les manifestations se poursuivent, là, maintenant? Oui.
Oui, je ne suis pas devant, j'y suis pas, parce que je suis encore au bureau et je suis plus au nord, je ne suis pas sur l'île de Hong Kong, là où la majeure partie des manifestations se déroule. Mais je suis régulièrement les informations, et effectivement, les manifestants sont toujours en place.
Ils bloquent toujours la ville?
Alors, il bloque certains. En fait, il y a l'île de Hong Kong, qui est l'île principale de Hong Kong, mais aussi ce qu'on appelle la Kowloon, qui est en face de l'île, et derrière il y a les nouveaux territoires. Donc c'est quand même un territoire qui est assez important. Il y a aussi l'île de Lantau, qui est la plus grande île de Hong Kong. Donc l'endroit où se trouvent les manifestants, ou les endroits où ils se trouvent, sont des endroits très très spécifiques. Et qui évidemment entraîne des perturbations pour les usagers des transports à ces endroits-là et les habitants.
Ouais.
Mais on peut pas dire que toute la ville est bloquée. Enfin, moi, j'ai pu aller au travail normalement. Comme je suis plus au nord, comme je te le disais, côté de la Chicoque, au nord de Kowloon. Donc ça dépend où on habite et ça dépend où on va travailler. Mais effectivement, les quartiers centrales, Causeway Bay, il y a même un peu plus de l'autre côté, du côté de Tsim Sha Tsui et Mong Kok, il y a effectivement des perturbations fortes liées aux manifestations.
Parce que vu d'ici, quand on regarde les images, on a des images qui nous arrivent, mais c'est très impressionnant. Des centaines de milliers de personnes sur des autoroutes, sur des qui bloquent des accès.
Ouais, je sais pas s'il y a sûrement une évolution, parce que ça fait déjà quelques jours, je sais plus si c'est le cinquième ou sixième jour de protestation ou de manifestation, donc je pense qu'il y a eu aussi une différence entre les débuts et aujourd'hui, parce que moi j'y étais, c'était un jour férié, je suis quand même au travail, mais après je suis un peu promené dans la ville, et c'était plutôt... Je suis pas allé au cœur même des manifestants, mais c'était assez relativement détendu. En tout cas, on pouvait facilement y avoir accès si on le souhaitait, évidemment.
Oui.
Et c'était, je pense, moins impressionnant qu'au début. Et en tout cas, de mon point de vue, ça restait encore bon enfant. En tout cas, c'était dans la journée. Donc les choses peuvent évoluer, bien sûr, mais je pense que la tension est retombée parce que les policiers sont... quasiment invisible.
Ah bon?
Bah, de ce que j'ai pu voir, hein, en me promenant, les sites peuvent être on peut y accéder à pied.
Ouais, tu peux aller rejoindre les manifestants comme ça, quoi.
C'est pas oui. Ouais. En tout cas, c'était le cas hier. C'était encore un jour férié, puisque c'était avant-hier et hier étaient les jours fériés. Parce que le premier, c'était la fête nationale chinoise.
Chinoise, ouais. Et parce que
donc c'est moins impressionnant, en tout cas, de ce que j'ai vu moi.
Parce que ce qu'on dit ici, hein, je te dis les infos qu'on a nous ici, c'est que la police et l'armée ont reçu des caisses et des caisses de munitions, des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes, comme s'ils se préparaient à attaquer ce soir, ou je sais pas trop quoi. Enfin, mais alors après, je sais pas, c'est des infos qui arrivent comme ça.
Ouais, j'ai vu des photos qui circulent effectivement sur internet, et puis. C'était possible, ils peuvent évidemment encore l'utiliser, mais il y avait un ultimatum que je crois qui était hier soir, voilà. À minuit,
ouais.
Des manifestants qui demandaient au chef de l'exécutif de démissionner, ce qu'il a refusé de faire. Par contre, il y a eu une sorte de main tendue, si on peut appeler ça une main tendue, puisqu'il a offert une sorte de négociation avec le numéro 2 du gouvernement. Pour discuter un petit peu de la situation. Donc, il n'a pas démissionné, mais il y a eu quand même
un petit pas.
On va dire un geste de détente qui peut être provisoire, parce qu'effectivement, c'était, comme je te le disais, deux jours fériés. Aujourd'hui, beaucoup aussi de Hongkongais ont pris leur journée. Donc, l'activité de la ville, elle n'est pas à son maximum. Et je pense que plus ça va durer, plus les blocages dans certains quartiers vont durer, et plus il y aura des tensions entre les manifestants et les habitants, parce que tout le monde n'est pas
oui, il paraît qu'il y a...
tout le monde n'est pas derrière, hein.
Oui, il paraît qu'il y a des tensions entre ceux qui manifestent et ceux qui ne veulent pas. Voilà.
Ouais, comme je te disais, dans certains quartiers, parce que les gens commencent à en avoir marre, et puis le quotidien prend un peu le dessus sur des aspects un peu plus liés aux libertés, et d'autres ont des raisons liées au business, parce que c'est une semaine qui est très importante, ce qu'on appelle la Golden Week en Chine.
La Golden Week
férié, c'est des semaines où les gens, les Chinois, de Chine continentale, avec les deux jours fériés, généralement posent leur jour et puis vont visiter leur famille, mais aussi souvent viennent à Hong Kong pour faire du shopping. Donc c'est une semaine avec la semaine de Noël qui est une des semaines les plus fortes.
Ah, donc tout ce qui est donc tous les gens qui font du business, qui font du business à Hong Kong,
ils sont impactés.
Ils disent attendez, là c'est la semaine où je fais mon chiffre d'affaires, faudra arrêter de manifester. Ouais, l'argent ou la liberté.
Ça fait partie des gens qui peuvent ne pas être d'accord. D'autres qui n'ont pas d'intérêt de business sont pas forcément en ligne avec les.
Avec les manifestants.
Les manifestants.
Si je rappelle en deux mots le comment du pourquoi de ce mouvement, c'est qu'en 2017, il va y avoir des élections pour le chef de l'exécutif de Hong Kong. Des élections qui sont censées se dérouler au suffrage universel, des élections démocratiques, mais il se trouve, si j'ai bien compris, que le gouvernement de Pékin impose les candidats. Donc c'est des fausses élections, quelque part. Et du coup, ça crée ces tensions entre les habitants de Hong Kong qui veulent garder un statut à part, qui veulent rester un peu différents du reste de la Chine et la Chine continentale.
Ouais, c'est exactement ça. Il y a ce paradoxe qui fait que les Hongkongais ne sont pas vraiment chinois, on avait déjà parlé la dernière fois, mais qu'en même temps, je crois que j'ai aussi un reportage dans un quotidien français, le poids de Hong Kong au niveau économique par rapport à la Chine, il est passé depuis 1997 de 18% à 3%. C'est-à-dire que Hong Kong ne représente plus, n'est plus la force économique relativement à la Chine qu'elle était en 97.
Oui, maintenant. Oui.
Donc peut-être que tout le monde n'a pas pris aussi la mesure de, en tout cas les étudiants de cet état de fait, et que le caractère un peu particulier de Hong Kong, il s'efface aussi de plus en plus par rapport à des villes comme Shanghai, qui montent en puissance. Poussé par le gouvernement central. Donc, ils ont toujours ce sentiment d'être différents. Dans les faits, économiquement, par rapport à la globalité du territoire,
tu veux dire que Hong
Kong, c'est pas forcément évident.
Hong Kong a perdu, enfin, les habitants de Hong Kong perdent un de leurs plus grands arguments, qui était de dire il faut nous laisser tranquilles, comme ça on apporte beaucoup d'argent à la Chine continentale.
Et ça peut être un argument, mais en tout cas, il n'est plus aussi valable que c'était le cas au moment de la rétrocession. Donc, c'est un aspect à prendre en compte.
Je reviens sur le quotidien, le jour le jour. Est-ce que tu as senti, je sais pas, de la censure de la part du gouvernement au niveau d'Internet? Est-ce qu'on bloque les réseaux sociaux? Est-ce qu'on bloque les infos qui viennent de l'extérieur, par exemple? Ou pas?
C'est difficile à dire. Moi, je regarde très peu la télévision, mais par exemple, je suis en train de consulter, enfin, en tout cas, j'ai mon écran qui est sur le South China Morning Post, qui est un des quotidiens qui est paru à Hong Kong. On peut y avoir accès sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité quand même des publications à Hong Kong, sauf peut-être le South China Morning Post, est quand même très orienté central chinois. Donc il y a déjà un peu une orientation, on va dire, des médias, mais il n'y a pas de censure en tant que telle, en tout cas pour le Kidam.
T'as accès normalement à tous les sites habituels, tu peux aller à peu près n'importe où.
Le quotidien, le principal quotidien hongkongais, c'est le China Morning Post, en accès libre, il n'y a pas de souci d'accès. Je sais qu'ils ont essayé, qu'ils bloquent, peut-être essayent d'envoyer des virus sur les portables, les téléphones portables des manifestants, et qu'ils essayent sûrement de parasiter leur communication, mais à titre personnel,
t'as pas vu de différence.
Est-ce que
tu as senti une forme de panique chez les expatriés autour de toi, les occidentaux qui vivent là-bas, qui se disent oulala, il va être temps de partir, ou pas encore, ou pas du tout peut-être?
Non, je pense qu'on n'en est pas là. Enfin, je peux pas être déclaré être représentatif de leur opinion, mais il y en a certains qui ont un côté un peu plus pragmatique et qui voient leur avantage ou désavantage de la situation et qui ont peur que les prix de l'immobilier s'écroulent. Donc c'est vraiment des considérations très pécuniaires, on va dire. Ça peut être le cas aussi pour des Hongkongais, mais je pense pas qu'on en soit arrivé là. On va voir la suite des événements, parce que évidemment, s'il se trouvait qu'il y avait une escalade dans les manifestations et puis des surenchérissements de part et d'autre, peut-être que la situation pourrait être différente. Mais
pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, ouais.
Une dernière chose, donc toi, en ce moment, tu vis à peu près normalement, les magasins sont ouverts, il n'y a pas de pénurie, on manque de rien.
Ah oui, moi j'étais au restaurant hier, c'était à 500 mètres des premières lignes de manifestants, donc en plein central.
Tout va bien.
Si j'avais pas regardé par la fenêtre ou suivais les informations, je ne m'en serais pas aperçu à cet endroit-là, mais effectivement, il y a des gens, comme je le disais au début, ils sont dans des quartiers qui sont un peu plus... impacté, mais en tout cas, on n'est même pas encore là.
Éric, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné quelques minutes. Ouais. Et puis, à la prochaine fois, on se tient au courant, voir ce qui se passe. Okay.
Merci à toi.
Merci. Et je rappelle, si vous voulez lire les œuvres d'Éric, il est l'auteur du guide nomade Hong Kong, l'essentiel. On va mettre Franz Ferdinand, vas-y. Et ensuite, Thomas, qui a décidé de battre le record du monde de distance en sidecar. Je sais pas pourquoi. Et un petit coup de fil à Tina aussi, juste après Franz Ferdinand.
See?
Allô, la planète.
Allô. Welcome to Telefonsfahren.
Sur le Move.
Et je salue sur la page Facebook Magali à Istanbul. C'est le premier jour de la fête du mouton chez les musulmans, nous dit-elle. Tout est fermé, même le soleil est en congé. Bon, c'est l'Aïd, je sais pas. Valérie à la Réunion. Tiens, ça faisait longtemps, Valérie. Il faut qu'on prenne des nouvelles. Happy Planet. Nos amis sont toujours à l'île Maurice. Tout va bien. Mouspi, qui sont où, la petite famille en bateau? À Porto Santo, c'est où? Ça, c'est au Portugal, je crois. Qui est là aussi? À Jenny, qui est à Lisbonne, après une semaine aux Açores. Mélanie dans le Vercors, avec du soleil et des vautours. L'esprit voyageur est là. Vous pouvez les rejoindre tous sur la page Facebook de l'émission. Et donc Thomas, qui veut battre le record du monde de distance en sidecar. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Quelle drôle d'idée, pourquoi?
Pourquoi pas?
Bah oui, voilà, bonne réponse.
J'ai tenté en 2011, on avait fait Shanghai-Paris déjà en sidecar sur 4 mois. On était éligible pour gagner le record du monde, mais on n'a jamais réussi à extraire le data du GPS, donc on n'a pas eu notre record.
Non, donc, c'est ballot, ça, un petit problème technique. Ouais. Oh, bah, c'est idiot. Shanghai-Paris, il y a combien de kilomètres, Shanghai-Paris?
Il y a théoriquement 15 000, mais on s'est un peu paumé, on en a fait presque 20 000.
20 000 kilomètres, vous étiez deux?
On est parti à 3 motos, donc on était 4 personnes. Ma petite amie qui est devenue ma fiancée en cours de route, ouais. Mon associé chinois et un copain photographe.
En sidecar, non.
Voilà.
Donc la moto avec la petite capsule
avec
à côté.
Avec la bassine à côté, comme dans la grande vadrouille. Exactement les mêmes.
Mais c'est des sidecars modernes ou c'est des vieux trucs?
Non, ce sont des vieilles antiquités. Alors la route de la soie, on l'a faite avec des sides chinois, donc c'est une technologie d'avant-guerre.
Ouais.
Et là, la Panamérica, donc Alaska, Terre de Feu, ça va être... plus physique, donc on prend des Ourals qui sont des motos russes, donc c'est toujours une vieille technologie, mais qui sont encore produits aujourd'hui dans les montagnes de l'Oural, donc à défaut d'être plus fiable, c'est moins pas fiable.
Pourquoi vous choisissez des motos comme ça? Parce que c'est de la grosse mécanique, facile à réparer?
C'est une mécanique très basique, ouais. Il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour faire un diagnostic, et parce que moi j'ai une histoire d'amour avec le side, j'ai appris le premier véhicule que j'ai jamais conduit, c'était un sidecar en Chine, sans lien avec le sujet précédent, à 19 ans, et j'ai une entreprise de tourisme avec des sidecars, des véhicules de collection un peu partout en Chine et bientôt au Maroc. Donc c'est un peu mon truc.
Tu fais ça comme métier? Tu promènes des touristes dans des sidecars en Chine, toi?
Exactement.
Bah c'est nouveau, on n'avait pas eu ça encore. Je crois que même si je cherche des idées, je ne les trouverai pas par rapport à vous. Et ça marche bien de promener des touristes en sidecar en Chine? C'est un bon business?
Ça roule, c'est le cas de le dire. On a une centaine de motos maintenant, à travers 4 villes. Ouais, on fait des expéditions, donc on fait le plateau tibétain, on fait la route de la soie. En fait, l'idée, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. Donc on fait que des petits groupes, et on va rencontrer des minorités ethniques, on va dans des coins hyper reculés où... les bus ne passent pas, ou les tour opérateurs ne vont pas. Donc, voilà, en gros, on va là où les gens s'arrêtent tous de faire ce qu'ils font quand ils voient des têtes de blanc arriver.
Et tu vis à Shanghai?
Alors, je vis entre Shanghai et le Maroc, puisqu'on ouvre un bureau à Marrakech. Et là, je suis en train de faire la queue pour prendre l'avion pour aller à Cancun, puisqu'on a un projet d'ouverture à Cancun.
Ah, bah, t'as pas une vie désagréable, toi aussi?
J'ai une vie sympa. Si je te dis que je vais à Dunkerque, tu sais que c'est pour les vacances.
Mais comment ça t'est venu, cette idée de sidecar? T'as mis longtemps à monter ça? Enfin,
j'ai mis longtemps. Je bossais dans la publicité en Chine. Et puis, j'ai voulu faire quelque chose de plus intéressant de ma vie. C'était hyper intéressant d'aider McDo à vendre plus de burgers. Mais je me disais que je pouvais faire quelque chose de plus positif, on va dire. Et même si j'ai vachement appris. Et c'est pas pour rien que c'est une très grosse boîte. Ils sont forts. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de vivre de ma passion, de mes passions, donc le sidecar, le voyage, la rencontre. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, puisque on n'a pas fait de business plan et ça a décollé assez rapidement.
Ah, c'est toi qui faisais les pubs McDo, c'est à cause de toi qu'on devient gros.
Ouais, mais t'inquiète, tu es en première ligne.
C'est bon, je l'ai. Tout le monde, là, je l'ai, le responsable. Bon, et tu pars quand alors? Donc, tu l'as dit, c'est Alaska, Terre de Feu, donc tout au nord des États-Unis et descendre jusqu'au sud de l'Amérique latine. La Panaméricaine, c'est cette route. Est-ce que c'est une vraie route, la Panaméricaine, ou c'est un nom générique qu'on donne à ce parcours?
Alors, c'est entre les deux. C'est une route qui a été décidée dans les années 1920 par le Congrès américain, qui disait, voilà, il faut qu'on arrive à lier le nord et le sud. Et ils l'ont fait presque dans son intégralité, puisque partir du Panama, la route n'existe plus sur une certaine distance parce que la forêt est trop dense et parce que accessoirement, tu as aussi les FARC qui sont là-bas. Donc là, on sera obligé de prendre un bateau sur quelques jours, 3 jours de bateau, je crois, pour après repartir sur la Colombie. Mais sinon, cette route, effectivement,
elle existe.
Et donc, c'est la plus longue route du monde qui fait, selon les chemins, parce qu'il y a des bifurcations, elle fait entre 30 000 et 48 000 kilomètres.
Waouh! Donc une route, mais ouais, on m'avait parlé de cette route, on a eu terre qu'on avait fait un bout, ouais. On avait parlé de cette route, ouais, ce qui... c'est chouette. Et tu pars quand ?
Alors, on part mi-juillet l'année prochaine, et on est censé arriver fin octobre, début novembre, à la Terre de Feu.
Bah écoute, bravo, on va te suivre avec attention, tiens-nous au courant, tiens-moi au courant aussi pour Cancun, tout ça, c'est intéressant d'avoir ton ressenti, ton avis là-bas, comment ça marche.
Pas de problème, ouais, avec plaisir même.
On reste en contact, comment s'appelle ton agence pour louer des sidecars en
Chine ? Alors ça s'appelle Insiders et Expérience comme une expérience, donc l'expérience avec des insiders.
Insiders Experience, d'accord, voilà. Bon, on va mettre le lien.
Et la page Facebook, tu auras toutes les infos dessus.
Ça marche, on met le lien avec notre page Facebook à nous, si vous êtes intéressé, si vous voulez faire un tour de sidecar donc, en Chine ou au Maroc ou bientôt au Mexique. Vous appelez Thomas de notre part. Voilà, vous aurez un petit
et
café.
Ben c'est super.
Ça marche. Merci beaucoup, Thomas. Bonne route à toi, bonne chance. Et puis tiens-nous au courant de tes aventures. Bravo.
Avec grand plaisir. À bientôt. Salut.
Bravo. Comme tout paraît simple avec vous tous, mais c'est dingue, quoi. Tiens, j'ai monté une boîte de sidecar en Chine et hop, ils le font. Tina. Bonjour, Tina.
Oui. Allô.
Vous revoilà déjà. Qu'est-ce que vous venez faire dans l'émission ? Vous étiez là il y a une semaine, 10 jours.
Et bien justement, il y a une semaine, on était en train d'expliquer qu'on cherchait un lieu pour faire une exposition en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Et donc c'est juste pour annoncer la bonne nouvelle qu'on a trouvé un super lieu qui est sur le port d'Auckland.
D'accord.
Donc, du coup, c'est au milieu des bateaux, en extérieur, tout ça, tout ça. Et donc on présente la première expo du projet Globetrotter. Donc voilà, on est tout fiers et
bravo.
On est partagé ça.
Globetrotter, il faut rappeler en deux mots le projet, vous baladez dans le monde et vous aidez des personnes à réaliser des projets artistiques. Vous étiez en Afrique, hein, je crois,
voilà.
Vous avez eu au Congo, si je me souviens bien, au Mali,
ouais.
Non, c'était au Mali ? Ouais, c'était au Mali.
Non, Burkina Faso.
Au Burkina, voilà. Au Burkina, puis après en Inde. Ouais. Et là, donc, en Nouvelle-Zélande. Et ça marche bien. Voilà. Et alors, l'expo, c'est quoi ? C'est des photos des...
Oui, c'est essentiellement des photos qu'on a imprimées en grand, donc 1 mètre par 80 cm sur de la bâche.
Ouais.
Donc, on les a exposées à l'extérieur. Et puis c'est essentiellement des portraits des artistes qu'on a rencontrés et l'idée c'est de mettre en avant un peu leurs projets et en fait c'est cette même exposition on a l'intention de la remonter en France quand on reviendra,
ouais.
Mais d'y ajouter aussi les témoignages des différents artistes qu'on n'a pas eu le temps de faire encore pour l'expo à Auckland, mais ça sera prêt pour
Bravo
pour
Tina,
tour.
bravo, c'est allé vite, dis donc, il me reste... Attends, alors en 40 secondes, réponds juste à mon interrogation, c'est fou, vous êtes allé rapidement pour trouver un lieu pour exposer à Auckland, c'est facile là-bas,
ouais.
Vous avez ouvert les portes facilement
Bah écoute, en fait on a eu la chance d'avoir un rendez-vous et puis on savait pas vraiment si c'était pour nous proposer une expo ou si juste pour discuter de notre projet. Et puis c'est vrai que ils ont une facilité qu'on a peut-être
pas
un peu moins en France, mais c'est vrai qu'en un claquement de doigts, ils nous ont dit on vous laisse le port, vous exposez où vous voulez, vous choisissez, vous nous dites quand vous voulez démarrer.
Il faut qu'on y aille.
On était assez surpris de ça.
Bravo,
de ça, ouais.
Bravo Tina, on file, on met tous les liens sur la page Facebook. Salut Tina.
Ok, merci.
Ciao.
Salut.